BPM. Élection municipale 2022.
Bonjour et bienvenue sur BPM si vous venez nous rejoindre. L'élection municipale de Mantes-la-Jolie aura lieu les dimanches 15 et 22 mai. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales à 7h30 et 8h30. Les candidats viennent répondre à nos questions et nous accueillons ce matin Guillaume Kevarec, tête de liste de la liste Printemps Mantais, soutenue par Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, le Parti Communiste Français et le Parti Socialiste. Guillaume Kevarec, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 47 ans, vous êtes actuellement directeur de la transition écologique à l'agglomération de Cergy-Pontoise et responsable de la coopération décentralisée avec Haïti et le Bénin. Vous conduisez, je vous le disais, la liste Printemps Mantais, les électeurs mantais. Les plus anciens vous connaissent déjà puisque par le passé vous étiez à plusieurs reprises présenté, vous étiez présenté à des élections locales. Puis vous avez disparu des radars. Alors pourquoi revenir vous présenter à Mantes-la-Jolie ?
Alors j'ai d'abord pris du recul au niveau politique, hein. Je suis toujours resté habitant de Mantes-la-Jolie, acteur, mais je me suis recentré en fait sur ma famille et sur mon programme professionnel. Et là effectivement, on a découvert le déchirement au sein de l'équipe municipale, puis la démission du maire, ce qui fait que moi et beaucoup d'autres acteurs mantais, on s'est retrouvés et on s'est mis d'accord tout de suite pour se regrouper et puis du coup se relancer dans une bataille électorale qu'on n'a pas demandé, hein, puisqu'elle a lieu comme ça de manière partielle et imprévue, mais justement pour proposer une alternative réelle et crédible aux habitants de Mantes-la-Jolie.
Alors vous avez rassemblé une grande partie de la gauche, comment avez-vous réussi à rassembler la gauche à Mantes-la-Jolie ?
Eh ben c'était pas gagné, hein, parce que c'est la première fois depuis 27 ans que tous les partis de gauche sont rassemblés, et je suis plutôt fier de ce résultat-là. Ça a été un constat général, en fait, que la gauche a toujours perdu à Mantes parce qu'elle était divisée. C'est aussi la même chose au niveau national, hein, on l'a vu là au niveau de la présidentielle. Et donc je suis plutôt content que depuis le mois de janvier, toutes ces forces politiques, mais aussi hein, des citoyens non encartés, nous ont rejoints sur l'idée de proposer un avenir différent, un avenir meilleur à Mantes-la-Jolie.
Alors pour autant, ce rassemblement n'est pas tout à fait complet, parce qu'une figure incontournable de la gauche mantaise est absente. Votre liste marque jamais, pourquoi ?
Alors on a essayé, hein, comme à chaque fois, hein, de travailler et de voir avec Marc Jamais si on pouvait se mettre d'accord. Comme à chaque fois, Marc Jamais souhaite être candidat au premier tour. Bon ben voilà, c'est son choix, il a des élus sortants, on le respecte. Hein. On a essayé de se mettre d'accord, on n'a pas réussi. Je le regrette, mais c'est pas grave, hein, maintenant les électeurs choisiront.
Alors nous allons commencer avec votre programme, nous allons parler en détail notamment de l'écologie du cadre de vie. Tout d'abord, quelles sont vos propositions pour améliorer le cadre de vie à Mantes-la-Jolie ?
Alors pour nous c'est effectivement une priorité hein, d'améliorer un petit peu le cadre de vie parce que l'engagement premier qu'on prend c'est stop à la bétonisation un peu trop excessive de la ville. Il y a besoin de respiration, il y a besoin d'espace de verdure, on en a déjà certains, il faut en préserver, il faut en recréer des lieux de promenade.
Alors où est-ce qu'on peut recréer ?
Ben, y a plusieurs endroits hein, possibles. Hein. Parfois, il suffit même de quelques dizaines de mètres carrés hein, pour faire un petit peu d'espace vert, un petit peu de verdure. Mais notre principe, et vous le verrez sur la totalité du programme, c'est qu'on va le faire en concertation sur le programme économique avec les commerçants, sur ce type de programme ou d'aménagement dont on parlera pareil, avec les habitants qui connaissent et qui ont des idées là-dessus. On veut réassocier les gens à la prise de décision, alors que maintenant, tout se décide en mairie entre deux ou trois personnes.
Alors, vous indiquez également vouloir une ville plus écologique. Alors, ça veut dire quoi, c'est-à-dire ?
Mantes a pris beaucoup de retard dans le domaine écologique. Hein, y a des grands mots qui sont faits, qui sont prononcés, mais il n'y a rien qui est fait. Exemple, la production d'énergie renouvelable, comme du photovoltaïque. Ça fait des années que la plupart des communes de France s'y sont mis. À Mantes-la-Jolie, il n'y a toujours rien. C'est pas normal. On doit...
Il n'y en a pas sur le CTM ?
C'est très très... Alors, je ne sais pas s'il y en a sur le CTM, mais en tout cas, c'est extrêmement limité. Et on a beaucoup de bâtiments municipaux. On a plein d'écoles, on a des gymnases... Sur tous ces lieux-là, on pourrait produire de l'électricité. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis, il faut entamer un plan de rénovation un peu plus ambitieux de nos bâtiments. C'est à la fois des enjeux économiques, mais aussi écologiques. De moins dépenser financièrement pour le budget de la ville et surtout de faire des économies d'énergie.
Alors, toujours dans le cadre de vie, on va parler du logement. Vous désirez lancer un audit de tous les projets immobiliers de la ville et réouvrir la concertation avec les habitants concernant la construction prévue dans la destruction prévue de certaines tours, comme la tour Jupiter. Alors pourquoi ?
Alors, encore une fois, puisque ces décisions ou de démolition ou de construction de programmes immobiliers sont décidées en petit comité au niveau de la mairie, et pour nous, c'est vraiment pas la manière de procéder. Il faut associer les habitants à la prise de décision. Et nous, très clairement, on dénonce le fait que les promoteurs ont fait main basse sur la ville, avec visiblement, hein, je lis la presse comme vous et comme les Mantais, hein, une collusion hein, entre certains... élus de la majorité municipale ou leurs familles et des promoteurs immobiliers, ça pour nous c'est inadmissible. Il faut remettre de la transparence, c'est pour ça qu'on dit stop. On va lancer un audit à la fois sur les finances de la ville, parce que la Cour des comptes a dénoncé certaines choses, mais je suis certain qu'on va découvrir d'autres cadavres dans les placards, comme on dit, mais aussi sur ces programmes immobiliers. Nous, on veut tout remettre à plat.
Alors, on va parler deux minutes de l'ANRU. Il y a eu l'ANRU 1, il y a quand même eu 13 tours qui ont été détruites. Est-ce que ça a été une bonne chose pour le Val-Fouré ?
Oui, il fallait d'identifier le Val-Fouré. Attention, hein, mon discours n'est pas de dire qu'il n'aurait pas fallu détruire les tours. Hein. Je rappelle que la politique de la ville, c'est des idées de gauche. Hein. Ça date de Mitterrand, hein, les premiers gouvernements, avec Paul Picard, l'ancien maire de la ville qui a commencé ce travail-là. Donc oui, il fallait dédensifier, comme on dit, le Val-Fouré. C'était une nécessité pour faire respirer, pour recréer des liaisons, pour éviter qu'il y ait des cul-de-sac et autres, pour améliorer un petit peu le cadre de vie des habitants. Donc oui, c'est une bonne chose. Là, on est dans une étape où on finit cette étape-là. Et nous, on dit, notamment dans des tours où il y a des copropriétaires, ça ne nous paraît pas être la bonne chose que d'entamer des procédures de démolition.
Alors, qu'est-ce qu'on ferait alors ? On réhabilite ?
Pour réhabiliter, oui, comme ça s'est fait sur certaines tours. Il y a des moyens, il y a beaucoup de moyens au niveau de l'ANRU. Donc, nous, on va regarder ce qu'il est possible de réorienter, hein, puisque c'est des engagements contractuels, hein, avec l'Europe, avec l'État, avec la région. Donc, on ne peut pas tout faire, mais on va regarder ce qu'il est possible de modifier.
Alors, on va changer de quartier, on va partir vers la gare. Vous pointez du doigt différents inconvénients à l'arrivée d'Éole, comme la densification du quartier dans les prochaines années. Mais on construit toujours autour d'une gare.
Alors, c'est positif, effectivement, de construire autour d'une gare, dans une logique écologique chez moi, c'est-à-dire on met les logements près de la gare et les gens utilisent les transports en commun. Le risque avec Éole, c'est qu'effectivement, on soit perdant et qu'on perde, vous le savez, un certain nombre de trains directs ou que le temps de transport soit allongé. Ça, c'est un premier problème qu'on pointe. Le deuxième, on veut pas non plus que tous les petits pavillons ou autres autour soient soumis à la pression des promoteurs, comme c'est le cas actuellement, pour raser tout ça et ne faire que des immeubles autour de la gare. Il y aurait des problèmes de stationnement et de déplacement insurmontables. Donc, on est pour, effectivement, urbaniser, mais à taille humaine, le quartier de la gare.
Parce que de l'autre côté des voies, on arrive à Mont-Université. Vous pensez quoi alors ce quartier qui est tout nouveau, qui est bien dense quand même?
C'est un quartier, oui, c'est un quartier extrêmement dense et j'ai pas envie de voir la même chose côté Mantes-la-Jolie.
Vous voulez pas voir la même chose?
Non, pas autant.
D'accord. Alors on va parler mobilité douce. Dans votre programme, vous indiquez que vous voulez créer un réseau cyclable sécurisé justement entre les quartiers de la ville et la gare. Vous voulez également développer des secteurs piétonniers en centre-ville. Alors, première question, les mobilités douces, ça a été un petit peu initié depuis quelques années, déjà à Mantes-la-Jolie.
Oui, il y en a déjà, on voit les marques effectivement au sol. Il faut l'accompagner de beaucoup plus de pédagogie et d'explication, notamment vis-à-vis des automobilistes mantais, qui, faute d'information de la ville, ne comprennent pas forcément et voient arriver un cycliste en sens inverse. Donc, il y a besoin de l'accompagner de manière forte en termes de communication, ce que fait pas la ville. Et il y a aussi moyen de les développer. Nous, on estime que c'est un des moyens de se déplacer à Mantes. Globalement, Mantes est quand même une ville plate hein, par rapport à beaucoup d'autres villes. Donc, faut qu'on réfléchisse à des réseaux. Et il y a plusieurs endroits où on pourrait faire passer des pistes cyclables, notamment, mais aussi piétonnes, pour relier les différents quartiers de la ville. Ça rejoint aussi notre objectif un petit peu général. Nous, on veut réconcilier et pacifier les habitants et tous les quartiers de la ville. Et ça passe notamment par les mobilités douces.
Alors moi, je suis à la radio, là on est à rue de Gassicourt. Je veux prendre mon vélo pour aller prendre le train. Je le mets où mon vélo à arriver là-bas ?
Alors, très bonne question. Il faut qu'effectivement les consignes vélo, hein, ça c'est une compétence régionale hein, de Île-de-France Mobilité, il faut qu'il y ait des consignes vélo sécurisées. C'est-à-dire qu'effectivement, ce soit badgé parce que, évidemment, il faut à tout prix qu'on puisse retrouver son vélo le soir quand on rentre et qu'on en soit absolument certain. Donc ça, c'est un travail de partenariat qu'on mène avec la SNCF et Île-de-France Mobilité. Je l'ai mené sur Cergy-Pontoise et ça marche très bien. On arrivera à le faire également à Mantes-la-Jolie.
Alors, le secteur piétonnier en centre-ville, quelles rues seront concernées ?
Alors, même chose, hein, il y a déjà un secteur piétonnier les jours de marché. Pour nous, ça c'est un modèle. Le mercredi matin ou le samedi matin, il y a une partie des rues de la ville qui sont piétonnes et ça marche très bien, les habitants l'apprécient. Pareil, nous ce qu'on veut c'est concerter à la fois les habitants et les commerçants pour voir si on peut étendre, par exemple le samedi après-midi, certains secteurs de la ville piétonniers pour que les habitants puissent déambuler et puis tranquillement faire leurs courses. Le but c'est que ça aide aussi le commerce mantais qui est globalement en difficulté comme beaucoup de commerces de centre-ville.
On n'a pas de nom de rue.
Non, nous on veut pas, je dis, on veut concerter avec notamment les commerçants et les habitants pour choisir, mais ce sera dans le centre historique de la ville, hein, là où se tient le marché, ou peut-être un petit peu plus largement, mais à peu près autour de ce secteur-là.
Alors on va passer à un autre sujet prioritaire de votre programme, ce sont les enfants. Vous souhaitez une école plus égalitaire qui affirme la capacité de tous les élèves à réussir. Alors, quels seront vos axes de travail?
Alors effectivement, nous tous jouons dès l'enfance et dès la maternelle, on le sait bien. Donc il faut donner davantage de chances aux enfants montés. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Donc il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus, qu'on mette davantage de moyens. C'est vraiment nous ce que l'on dit.
Alors, il y a déjà eu des moyens comme la cité éducative.
Oui, ou qui permettent d'avoir un accompagnement. Mais par exemple, il n'existe pas d'études dirigées dans toutes les écoles. Ça nous paraît une aberration. Donc nous, dès septembre 2022, on mettra dans toutes les écoles des études dirigées pour que les devoirs soient effectivement faits par du personnel qualifié et formé. C'est une demande forte des parents d'élèves, et ça on va y répondre. On veut aussi davantage de moyens sur les projets éducatifs que portent les équipes municipales. Et puis, il y a des choses de base qui fonctionnent pas, qui sont strictement inadmissibles. Le Wi-Fi fonctionne pas dans toutes les écoles de la ville. Enfin, on est à la préhistoire. On voit bien que la mairie, c'est pas du tout sa priorité. Donc nous, on veut vraiment inverser les choses dans ce domaine.
Alors maintenant, on va passer à la jeunesse. Vous écrivez dans votre programme, je cite, « L'insertion est une urgence politique. Vous voulez favoriser, entre autres, la reprise d'études, quel que soit le niveau des jeunes qui sont déscolarisés. » Alors comment on arrive à rescolariser des jeunes déscolarisés? Parce que ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui.
Non, c'est difficile. C'est un travail, j'allais dire, de dentelle, de proximité, qui se fait notamment déjà par les éducateurs de rue, qui se fait aussi avec des centres de vie sociaux, qui, contrairement à aujourd'hui, sont des coquilles vides, sans moyens, soit vraiment des lieux où on redonne confiance aux jeunes, on les réintègre dans un parcours d'insertion. Et il existe une structure qui s'appelle l'école de la deuxième chance, qui existe dans beaucoup d'endroits, et qui permet justement de remettre le pied à l'étrier à des jeunes qui, pour différentes raisons, ont arrêté les études et qui ont les capacités de reprendre pour avoir des diplômes et des formations adaptées à certains métiers.
Donc ça existe déjà?
Ça existe déjà, mais pas sur le Mantois. Le problème, c'est qu'il faut le mettre en place ici. Et ça, il y a un grand besoin, parce que vous le savez, Nantes-la-Jolie a cette chance, et pour moi c'est une chance, d'avoir une population jeune.
Passons à la santé maintenant. Vous souhaitez, comme tous les élus français, attirer des professionnels de santé sur la commune. Alors, comment allez-vous faire pour réussir?
Déjà, j'espère qu'on va réussir. Effectivement, il y a plusieurs moyens. Hein. Ça peut être une maison médicale, mais à la différence de ce que fait la mairie, moi, la maison médicale, elle sera pas liée à des groupes privés, anciens élus de la ville ou qui ont des rapports avec la mairie. Ce sera au niveau municipal que ça pourra se faire. Soit maison médicale, soit des aides à l'installation. Hein, c'est une catastrophe sur certaines spécialités, mais même maintenant sur les généralistes, ça devient difficile à Mantes. En plus, un soutien extrêmement fort, si je suis maire, à l'hôpital public. Hein, moi, je crois beaucoup au public, puisque je siégerai au conseil d'administration. Et moi, effectivement, je soutiendrai l'hôpital public et je me battrai pour qu'il ait davantage de moyens.
Mais alors, comment on les attire, du coup?
Alors, je vous dis, ça peut être éventuellement des bourses d'études contre l'installation, ça peut être une maison médicale avec des tarifs préférentiels, ça peut être des aides à l'installation, enfin, on peut réfléchir à différents moyens qui ont déjà été testés ailleurs.
Alors on va passer au sport et à la culture. Côté sport, vous voulez organiser des assises locales du sport. Pourquoi? Quel but?
On a une ville très sportive, on a une multitude d'associations, à commencer par l'ASM, mais plein de petites structures également qui existent. Le but, c'est de réfléchir avec eux pour créer un espèce de projet commun qui puisse servir à la fois au niveau éducatif dans les écoles, mais aussi dans nos centres de loisirs, pour proposer un parcours sportif, on va dire, le plus large possible, et surtout pour que l'argent ne soit pas un obstacle à la pratique de certains sports. Voilà, l'idée, c'est qu'on veut réfléchir à un dispositif comme ça, un peu plus général.
Il y a déjà des aides, hein, qui existent pour faire du sport. Je crois que l'État donne, à partir, quand on a 6 ans, donne un chèque de 50 euros.
Oui, alors enfin, c'est pas sur les moyens qu'on donnera, qu'on va travailler, c'est sur l'offre. On veut améliorer l'offre, la diversifier et surtout la rendre accessible. Tous les sports doivent être accessibles à tous, on va dire. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles sur certains sports où il y a besoin d'équipement ou des tarifs un peu plus élevés.
Alors, vous voulez également mettre en place une école du sport? Une école des sports?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de proposer, comme ça se fait déjà sur certains aspects, mais l'idée, c'est de la généraliser, c'est d'offrir effectivement à tous les petits Mantais, leur permettre d'essayer un panel d'activités sportives et de voir là où celui qui leur plaît le plus, et qu'après, ce ne soit pas effectivement un obstacle financier. S'ils découvrent l'escrime et qu'il a une passion pour l'escrime, pardon, j'ai du mal à le prononcer, c'est le matin, c'est dur, faut pas qu'il y ait un obstacle financier et qu'il arrête alors qu'il est passionné par ça. Voyez, donc on aurait un dispositif ensuite qui permette aux enfants de choisir et de s'inscrire dans le club, parce que le but, c'est d'aider aussi les clubs sportifs dans la discipline qu'il aura choisie.
Alors, passons à la culture. Vous voulez également des assises, hein, de la culture, et vous voulez la création d'une friche culturelle pluridisciplinaire. Vous voyez, moi non plus. Alors, c'est-à-dire une friche culturelle pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi?
Vivement la fin de la campagne, on sera moins fatigué. Donc, l'idée sur ce domaine-là, comme sur d'autres, c'est d'essayer de faire travailler ensemble les acteurs de la ville. Moi, ce que je reproche au travail actuel de la mairie, c'est qu'elle divise volontairement, elle divise les quartiers, les habitants, les associations, et elle n'aime pas les projets fédérateurs. Nous, c'est le contraire qu'on veut faire. Dans le domaine culturel, c'est la même chose. On veut réfléchir à plusieurs acteurs culturels, hein, qui ont des projets, hein, sûrement, pourraient travailler ensemble dans un lieu pour créer, et puis proposer aux Mantais de découvrir de nouvelles choses, voilà, de travailler plusieurs disciplines différentes. Ça peut être de la danse avec du cirque, par exemple. Après, on est ouvert à tout. Ça peut être du graphe, ça peut être voilà des cultures urbaines. L'idée, c'est de créer des choses nouvelles, voilà, avoir un processus créatif. Il y a plein d'idées, il y a plein de potentiel, il y a plein de gens de manière de manière individuelle ou collective qui existent sur Mantes. Et voilà, travailler à quelque chose.
Alors, passons au chapitre économique. Vous comptez soutenir l'innovation et l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire. Alors, comment on fait arriver de nouvelles entreprises à Mantes-la-Jolie? On va prendre un exemple, hein. Comment amener de nouvelles enseignes en centre-ville, par exemple?
Alors, c'est un enjeu difficile, hein, puisque toutes les communes sont en concurrence, hein, on va pas se mentir. Le premier enjeu, c'est d'arrêter de soutenir, comme l'a fait la mairie et la majorité pendant 27 ans, les extensions des centres commerciaux en périphérie. Pour moi, c'est une hérésie, donc faut arrêter, hein, les grands centres commerciaux en périphérie, puisque ça tue le commerce de proximité, donc moi je serais très fermement.
Vous aimez pas mon beau Buchelet?
Non, je trouve que ça fait concurrence avec le centre-ville, et que c'est pas forcément utile d'obliger les gens à prendre leur voiture, et donc à consommer, à dépenser, à polluer, en périphérie. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un pied en interne pour aider. Après, c'est difficile. Faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Il y a un dispositif qui s'appelle les managers de centre-ville, qui effectivement essayent de travailler là-dessus pour travailler avec les propriétaires des commerces à Mantes pour voir s'il faut éventuellement restructurer certains, remembrer, préempter pour effectivement accueillir des enseignes qui ont besoin des surfaces un peu plus grandes que ce qui existe actuellement.
Mais c'est compliqué, à l'époque il y avait eu une SEM créée.
Oui,
il y a quelques années, oui, justement pour faire ça.
Oui, mais enfin, non, je pense qu'elle n'était pas faite pour faire ça. Hein. L'actuelle majorité a l'habitude de créer des espèces d'outils qui servent avant tout ses intérêts, hein, que ce soit sur la promotion ou autre. Donc moi, c'est pas vraiment par ce biais-là, moi c'est par des biais municipaux que je veux agir.
Alors, vous évoquez également le stationnement, quelques heures gratuites dans certaines zones.
Oui, là aussi, hein, quand même, c'est de manière scandaleuse que l'an dernier, la majorité a augmenté les tarifs et a baissé les plages horaires de gratuité. Donc, je pense que c'est un mauvais coup porté au commerce du centre-ville. Donc, nous, on veut remettre ça à plat. On verra ce qui est prévu dans le contrat de délégation, hein, puisque c'est une délégation. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait un audit pour voir effectivement quelles sont les marges de manœuvre. Et l'intérêt et l'important, c'est de pouvoir accéder au centre-ville. Alors, pas forcément se garer devant le commerce, hein, je le redis, ça n'est pas possible. Donc, nous, on réfléchit aussi à augmenter les parkings en périphérie de la ville avec une navette gratuite qui permettrait de desservir les principaux lieux de commerce.
Une navette électrique?
Évidemment, ce sera évidemment une motorisation exemplaire et électrique ou hydrogène.
Un mot sur la sécurité. Vous comptez installer une maison de la justice et du droit. Alors, à quoi va-t-elle servir? Et est-ce vraiment la priorité d'une municipalité? C'est pas le ministère de la Justice de régler ces problèmes-là?
Alors, la sécurité est effectivement une compétence nationale, mais évidemment, la mairie a un rôle à jouer. Hein. On a une police municipale, on a différentes actions que l'on mène, et la maison de la justice et du droit, ça existait, hein, à Mantes-la-Jolie, hein, c'est devenu malheureusement une coquille vide. C'est un lieu où les habitants, les justiciables, peuvent retrouver des informations. Parce que moi, je le vois au quotidien, dans les porte-à-porte ou les rencontres, très nombreux mantrés qui ne savent pas trop à qui s'adresser. On ne sait pas comment faire un courrier pour saisir la justice, ou pour un huissier, ou pour un médiateur. Bref, les gens sont perdus. Donc, c'est un service public que l'on veut rendre pour aider à faire toutes sortes de démarches liées au droit et à la justice, mais aussi de manière plus générale à toutes les démarches administratives.
Vous désirez plus de démocratie participative si vous êtes élu. Alors, sous quelle forme?
Très clairement, on veut libérer la ville de Mantes-la-Jolie de l'espèce d'omerta et du poids, hein, qui pèse. On critique très fortement la manière dont sont gérées les subventions aux associations, aux habitants ou autres. Où, en gros, on impose un donnant-donnant actuellement. Nous, on veut revenir à la liberté d'association, à la liberté des projets. Donc effectivement, comme je l'ai dit, sur tous les projets, on veut associer, concerter. Projet d'aménagement avec les riverains en route, projet culturel avec les acteurs culturels, projet sportif avec les acteurs sportifs. On veut que les habitants se réapproprient les décisions. On veut mettre en place, par exemple, un budget participatif, où c'est-à-dire que les habitants eux-mêmes vont proposer des projets d'aménagement dans les différents quartiers. Les Mantais vont voter, et ceux qui auront obtenu le plus de voix, nous, on s'engage à les réaliser dans l'année qui suit.
Alors, pour finir, j'ai lu que vous aimiez bien le football, que vous étiez bon ou chanceux dans la discipline. La lucarne a fait son passage à Mantes-la-Jolie. Alors, la lucarne, on rappelle, hein, c'est tirer avec un ballon de football dans une minuscule lucarne, à quelques mètres de cette lucarne, justement. Vous avez réussi du premier coup. Alors, coup de chance ou coup de précision?
Oh, les deux. Hein. J'ai pas la prétention d'être un footballeur professionnel, même si depuis j'ai été contacté par des grands clubs. Je plaisante bien sûr, mais effectivement je suis gaucher, donc j'aime bien tirer des coups francs. Donc là évidemment du premier coup c'est un coup de chance, mais je trouve que c'est plutôt sympa comme concept. Voilà, d'essayer autour du sport, puisque c'est le principe de la lucarne d'Evride. Voilà, là aussi d'avoir aussi autour des stands d'animation, d'aide au CV, etc. pour que les jeunes puissent aussi s'impliquer dans la vie professionnelle. Mais sinon, effectivement, moi, j'adore le foot. J'en fais depuis l'âge de 10 ans et je continue à en faire avec des amis.
Et alors, tir de chance ou de précision pour dimanche, pour ce premier tour?
Oui, j'allais dire, ayant réussi du premier coup la lucarne des Véries, et j'espère bien qu'on réussira aussi du premier coup dimanche, à convaincre les Mantais qu'on est effectivement la seule alternative au système en place. Hein, moi, je le redis, que ce soit Santini ou Cogné, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ils sont issus du même système. Il n'y aura pas de vrai changement. Alors que nous, on représente vraiment l'alternative. Et j'en profite pour conclure, pour lancer un appel vraiment solennel. Il y a eu 8814 Mantais et Mantaises qui ont voté pour la gauche au premier tour des présidentielles il y a un mois. C'était exceptionnel et malheureusement, d'après les statistiques, près de la moitié d'entre eux ne viendraient pas voter dimanche. Donc, la moitié, c'est vraiment énorme, donc j'appelle vraiment à la mobilisation dans deux jours pour cette élection municipale partielle, parce que pour la première fois à Mantes, la gauche, avec un programme de justice et d'égalité, peut l'emporter.
Merci Guillaume Kivarek.
Merci beaucoup.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à midi et à 18h et sera disponible sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast municipal 2022. D'ici quelques instants, prochain et dernier candidat à venir dans nos studios, ça sera Jean-Luc Santini de la liste Mantuni pour l'avenir à 8h30. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2022.